Cet après-midi, nous arrivons à l'avant-dernier acte de la vie de Jésus sur la terre. En effet, le texte que nous allons parcourir ensemble nous présente un Jésus qui est rejeté, un Jésus qui est humilié et un Jésus qui est triomphant. Le rejet et l'humiliation de Jésus se feront au travers d'un procès qui implique les humains de tous les temps et de toutes les époques. Nous allons le voir. La honte que Jésus va subir concerne chacun d'entre nous. L'offense de Jésus concerne directement notre voisin de palier, notre collègue de travail et même une personne lambda que nous allons croiser en sortant de ces lieux. Et ce, même si ces personnes l'ignorent. Et pour nous en rendre compte, Marc, l'auteur du livre, un témoin oculaire de Jésus, nous invite à nous asseoir dans un tribunal, à nous installer dans un tribunal où nous allons assister à la condamnation de Jésus. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Marc 14, à partir du verset 53. Nous sommes au premier siècle de notre ère. Le peuple juif est assujetti par Rome où Tibère est l'empereur. Et ce récit se déroule dans la nuit du jeudi au vendredi matin. Jésus a été fait captif par la milice du temple. Il a été abandonné par ses disciples. Et maintenant, il va comparaître. Il va comparaître devant les personnes qui ont ordonné son arrestation. Je lis à partir du verset 53. « Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près d'eux. Les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. » Et ils n'en trouvaient pas. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant « Ne réponds-tu rien ? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ? » Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de Dieu, le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous ? » Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui et lui mettre un voile sur le visage et le frapper à coups de poing en lui disant « Devine qui te frappe ! » Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Jésus est littéralement rejeté et humilié par les chefs juifs qui étaient contre lui. Et ce n'est que le début. Maintenant, il va subir une trahison qui vient de son propre camp, une trahison qui est plus douloureuse. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arriva. Il vit Pierre qui se chauffait et le regarda et lui dit « Toi aussi, tu es avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents, « Il fait partie de ces gens-là » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. » Pour la seconde fois, le coq chanta, Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en réfléchissant, il pleurait. Jésus est rejeté et humilié par celui qui le suivait partout et qui l'aimait. Et maintenant, on arrive à l'apogée de cette condamnation. Nous sommes à la cour suprême de l'époque en Israël, où le pouvoir romain va prononcer un arrêt capital. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ? Vois tous les témoignages qui portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison un dénommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'ils avaient l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs de prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !»« Quel mal a-t-il fait ?» leur dit Pilate. Il cria encore plus fort, « Crucifie-le !» Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Jésus est livré à la crucifixion et c'est Rome qui valide sa condamnation à mort. Cet après-midi, nous allons nous approprier deux vérités essentielles qui découlent de ce texte. La première, c'est que l'humiliation de Jésus, l'humiliation du Christ, révèle le cœur naturellement mauvais de l'être humain. Et ce dernier s'oppose à Dieu et à sa loi. Et la deuxième vérité que nous allons nous approprier ce matin, c'est que le Christ triomphant nous invite à croire que Jésus est notre seule solution, car à la fin, c'est lui qui régnera. Pour commencer, on va se focaliser sur les pharisiens. Alors, à l'origine d'un procès, on a une ou plusieurs infractions, et qui sont des entraves à la loi. Et en fait, ces infractions sont amenées par des victimes. Et dans la juridiction française, les infractions se catégorisent en trois catégories. On a des contraventions, qui sont punies par des amendes. Ensuite, on a des délits qui vont des amendes de 3 750 euros à des emprisonnements de plus de 10 ans. Et au-dessus, on a des crimes. Donc c'est au moins 15 ans d'emprisonnement. Dans le texte qui nous concerne ici, Jésus est privé de sa liberté. Jésus est emprisonné. Donc c'est au moins un délit. Le problème, c'est qu'il y a zéro infraction. Il y a zéro infraction dans ce texte. Regardez le verset 55. Les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. C'est complètement fou. D'un côté, il n'y a pas d'infraction, il ne devrait pas y avoir d'emprisonnement, encore moins de procès. Et de l'autre, il y a une sentence qui est injustifiée, disproportionnée, la peine de mort. Et cette première irrégularité discrédite totalement le conseil juif qui appelait le Sanhédrin. Et le Sanhédrin avait un pouvoir juridique, exécutif et aussi religieux. On y trouvait les anciens qui étaient chargés de ce rôle exécutif, et aussi, d'un côté, le pouvoir religieux qui, lui, était exercé par les spécialistes de la loi dans ce texte et aussi les chefs des prêtres. Alors, les spécialistes de la loi, en fait, ce sont les scribes. Donc, eux, ils étudiaient et enseignaient la loi au peuple. De l'autre côté, on a les chefs des prêtres qui, eux, étaient garants du culte qu'on rendait à Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de sacrificateurs. C'est eux qui recevaient le peuple, qui recevaient d'eux les offrandes et en même temps qui recevaient d'eux leur demande de pardon. Et donc, en gros, c'était un peu la crème de ce peuple-là. Et par ce procès qui est injustifié, cette crème, à la tête d'Israël, enfreint la loi et elle doit elle-même comparaître devant un tribunal. Jésus est clairement innocent et on peut s'arrêter là. Mais allons plus loin, regardons à la véritable raison qu'il y a derrière ce procès. Et cette raison, on le trouve au chapitre 15, au verset 10. En effet, Pilate savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. La jalousie des chefs des prêtres est celle qui les pousse à précipiter ce procès. Ce procès a lieu en pleine nuit, pendant que le peuple dort. Le but est de réduire à néant toute opposition. Tout cela par jalousie. Alors, il y a plusieurs irrégularités dans ce texte, mais pour faire court, on va juste en regarder une dernière, qui se trouve au verset 56. « Beaucoup rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. » Nous avons là de faux témoins, et ce simple constat, d'après la loi en vigueur, que le conseil ne pouvait ignorer, devrait annuler le procès. Lisons ensemble ce qu'on retrouve dans la Bible, ce que Dieu instaure au sein du peuple, cette loi-là dans Deutéronome, verset à partir du chapitre 19. Deutéronome 19, 16 à 21. « Lorsqu'un faux témoin se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les prêtres et les juges en fonction. Les juges feront avec soin des recherches, avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin ? A-t-il de fausses dépositions contre son frère ? Alors vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, les autres en entendront parler et éprouveront de la crainte. Et on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Ton regard sera sans pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, et ici, meurtre pour meurtre. Les témoignages ne correspondent pas. Anciens, prêtres, scribes s'en foutent littéralement. Ils n'ont aucune considération pour Dieu ni pour sa loi. Le constat est sombre pour le peuple. Il n'y a plus de justice en Israël. Quels enseignements tirer sur la nature de l'homme dans ce texte ? Eh bien, la justice humaine est faillible. La justice humaine est faillible, et ce, à tous les niveaux. Des serviteurs qui frappaient Jésus, d'autres qui crachent sur lui, jusqu'au chef religieux qui l'humilie. La justice humaine est faillible parce que notre cœur est faillible. Nous venons de le voir. La Bible nous dévoile que le cœur de l'homme est naturellement disposé au mal. Nous sommes incapables d'être lucides et de garder un jugement juste, parfaitement. Les membres du conseil juif ont ignoré totalement les bonnes choses, les miracles que j'avais fait, et même les prophéties qui étaient annoncées à son sujet. Pourquoi ? Parce que Jésus leur volait la vedette. Jalousie, rivalité, orgueil. N'est-ce pas là des sentiments qui apparaissent naturellement et de façon récurrente dans nos relations ? Et ce qu'il y a d'effrayant, c'est de réaliser jusqu'où cela peut entraîner. Colère, mépris, violence, crachat, mensonge et meurtre. Le problème pour nous, c'est que personne n'est vacciné contre ces choses. Et Jésus est venu sur la terre pour montrer aux humains de toutes les époques que le cœur humain est naturellement mauvais, opposé à Dieu et à sa loi. Voilà ce qui découle de la nature de l'homme dans ce passage. Mais ce qu'il y a de frustrant dans ce texte, c'est qu'à la fin, c'est Jésus qui meurt. Et les vrais coupables ne sont pas punis. Où est la vraie justice ? Cette semaine, au moins 4 personnes sont décédées suite à un attentat près de Carcassonne. Le coupable a été abattu par les forces de l'ordre. Il ne comparaîtra plus devant une cour pénale. Qui rendra des comptes face au chagrin des familles ? Qui répondra face à la crainte qui paralyse actuellement les personnes qui ont assisté à cette scène ? D'autres personnes, mais pas le coupable. La justice humaine est non seulement faillible, mais elle est surtout limitée. Sa connaissance est restreinte. Ici, dans le texte, les chefs religieux sont libres. Personne ne les condamne. Et aucun d'entre nous, ici dans cette salle, ne comparaîtra devant un tribunal en France pour tous les mensonges que nous avons eus durant notre vie. Nul ne comparaîtra devant une cour française pour toutes les conséquences néfastes de la jalousie qu'on a pu avoir. La justice humaine est faillible et sa connaissance est limitée. Et c'est révoltant, car en gros, on a un gros problème qui touche tous les âges, les humains de tous les âges et de toutes les époques. La race humaine est contaminée par un poison, son cœur est voué au mal, et elle ne peut émettre un jugement parfait. Pour ces raisons, la vraie justice doit être extérieure à la race humaine. De cette façon, elle sera exercée par un tiers qui est innocent. Et cette justice doit atteindre les vivants, mais aussi les morts, comme Hitler, par exemple. Et ainsi, elle pourra concerner les humains de tous les temps et de toutes les époques. La vraie justice doit connaître tout du cœur humain. Conclusion, cette vraie justice est nécessairement divine. Et donc, si vous ne croyez pas en Dieu, eh bien, vous ne pouvez pas non plus affirmer qu'il existe une vraie justice. Car en dehors d'une personne qui est juste, une personne qui est éternelle, une personne qui est omniscient, eh bien, il n'y a pas de vraie justice. Et c'est exactement ce que Jésus va affirmer dans ce texte au verset 61. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant, venant sur les nuées du ciel. » Le grand chef lui pose une seule question, mais Jésus va répondre avec deux déclarations. Ces deux déclarations sont tirées des livres de l'Ancien Testament qui ont été écrits plusieurs siècles auparavant. Par là, Jésus, dans la première affirmation, Jésus affirme qu'il est le Messie. Et cela signifie qu'il va mourir pour la faute des hommes, mais qu'il va triompher de la mort pour sauver les personnes qui se confient en lui et régner sur elles. Et maintenant, la deuxième déclaration de Jésus. Jésus attaque directement les chefs religieux. Il leur annonce un procès contre eux et que c'est Jésus lui-même qui jugera. Jésus va revenir et tout le monde le verra, y compris ces personnes-là. C'est une excellente nouvelle pour l'humanité. Il y a une vraie justice. Le mal qu'on subit sera jugé. Et il y a également une mauvaise nouvelle qui est assortie au texte. Que nous le voulions ou non, que nous soyons avec ou contre lui, ben nous aurons des comptes à rendre aussi, nous, à Jésus lui-même. Poursuivant avec la suite du texte, alors au milieu de ce drame, Marc inclut l'histoire de Pierre. Pourquoi ? Parce que nous avons une tendance naturelle de justifier quelquefois nos mauvaises actions face à nos adversaires. C'est le cas ici des chefs religieux. Si tu m'offenses, alors ben, j'ai le droit quelque part de réagir. Sous-entendu que nous nous comportons différemment avec les personnes que nous aimons. Et ce texte est là quelque part pour nous montrer que notre cœur est naturellement voué au mal, affecté, et ce mal affecte nos relations les plus intimes, comme c'est le cas avec Pierre. Nous allons retrouver cette vérité. L'humiliation de Jésus révèle notre cœur naturellement mauvais, au point de... Et ce mal méprise les liens et même ceux qui sont les plus intimes. Pierre aimait Jésus. Pierre a suivi Jésus pendant 3 ans, si bien que pour lui, c'était complètement inconcevable d'abandonner Jésus. Et c'est justement pour cette raison qu'il va affirmer dans cette même nuit-là, dans laquelle nous sommes, Pierre lui dit au verset 29, « Même si tous t'abandonnent, trébuche, ce ne sera pas mon cas. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, toi tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Cette déclaration témoigne contre tous les disciples. Tous les disciples ont abandonné Jésus. Ils ont tous trahi leur promesse. Ils l'ont tous renié ici. Voilà la réalité du cœur humain. Et ce fait concerne la race humaine de façon intemporelle. Votre voisin de palier est concerné. L'homme n'est pas fondamentalement bon. Et pour cette raison, tous nos principes, tous nos bons fonctionnements ne marcheront pas parfaitement. L'exemple des disciples est là pour nous le montrer. Alors qu'en est-il pour nous cet après-midi ? Est-ce que cette vérité biblique que Jésus nous enseigne ici résonne dans notre esprit ? Est-ce qu'elle met en lumière nos attitudes mauvaises, notre égoïsme, l'amertume que nous pouvons cultiver dans nos relations ? Peut-être avec notre conjoint, peut-être avec un conflit en famille, avec notre papa, notre frère, notre sœur. Bref, toutes ces personnes que nous chérissons et aimons. En effet, les personnes que nous aimons le plus, celles que nous côtoyons au quotidien, ces personnes qui tous les jours voient nos humeurs, notre impatience, notre égoïsme peut-être, sont généralement celles qui souffrent le plus de la dureté de notre cœur. Cette leçon, je l'ai apprise à mes dépens en décembre dernier suite à une dispute avec mon frère. On s'est fait du mal avec nos paroles et quand Pierre, les paroles de Jésus nous ont montré notre cœur mauvais, nous avons pleuré littéralement et heureusement pour nous, nous nous sommes demandé pardon. Merci Seigneur. Et que nous dit Jésus dans ce texte sur le reniement de Pierre? Eh bien, une seule chose, Jésus sait tout. Jésus sait ce qui se passe dans chacun de notre cœur, dans celui de Pierre. Jésus sait exactement comment nous réagirons. Et c'est pour cette raison qu'il est victorieux dans ce texte. C'est pour cette raison qu'il triomphe. Jésus triomphe des circonstances parce qu'il démontre son omniscience. Il connaît notre avenir. Et c'est justement pour cette raison que Jésus est notre unique solution. Car à la fin, c'est lui qui régnera. Il connaît l'avenir, il vient de le prédire ici de façon précise. Et nous pouvons le faire confiance. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à lui faire confiance? Sommes-nous prêts à croire en une personne qui est prête à mourir pour nous? Dans ce texte, Jésus est serein. Jésus est en paix. Il sait qu'il doit mourir. Et c'est la raison pour laquelle, devant Pilate, il accepte, au final, les accusations du peuple. Il ne bronche pas. Il est prêt. Les Juifs sont assujettis aux Romains. Les Juifs ne pouvaient pas condamner un homme. Cette décision devait être prise par une autorité romaine. Et ici, c'est Pilate. Alors, Pilate, dans ce récit, il est jusqu'ici extérieur au conflit. Il est donc plus lucide, normalement. Et en effet, Pilate voit la supercherie des chefs religieux. Il voit leur jalousie. Nous l'avons lu. Il peut donc, quelque part, rétablir la justice, trancher de façon équitable. Mais hélas, il a ce même problème, son cœur est naturellement voué au mal. Regardez le verset 15. Il préfère condamner l'innocent pour plaire aux hommes. Il préfère condamner l'innocent pour plaire aux hommes. La justice humaine est totalement faillible. L'être humain est capable de condamner l'innocent pour plaire aux hommes et les hommes sont heureux lorsqu'on leur libère un criminel et qu'on tue un innocent. Hitler avait exactement le même cœur que nous. Comme les chefs religieux, il n'avait juste que plus d'influence. Regardez au verset 11 de ce texte. La foule ici suit aveuglément les chefs religieux. Et dès lors, l'homme n'est plus seulement coupable pour les fautes qu'il commet, mais aussi pour les personnes que nous entraînons avec notre désobéissance. J'ignore avec qui vous vous identifiez le plus dans ce texte. Mais avant de conclure, voici une dernière pensée de C.J. Mahamé. Je m'identifie le plus à la foule en colère qui crie « Crucifie-le ». C'est à elle que nous devrions tous nous identifier. Parce qu'en dehors de la grâce de Dieu, c'est au milieu d'elle que nous serions tous debout. Et nous nous flattons si nous pensons le contraire. Car à moins que vous ne voyez debout avec la foule hurlante, pleine d'hostilité, de haine pour l'agneau de Dieu, saint et innocent, vous ne comprendrez jamais la nature et la profondeur de votre péché et la nécessité de la croix, où Jésus va aller dans quelques heures. En synthèse et en conclusion, nous avons parcouru, étudié deux vérités cet après-midi. Le Christ humilié nous montre que le cœur humain est naturellement mauvais. Il s'oppose à Dieu et à sa loi. Et le Christ triomphant nous invite à croire que Jésus est notre seule solution, car à la fin, comme on l'a vu dans ce texte, c'est lui qui règne, c'est lui qui est éternel, c'est lui qui est omniscient. Quelques applications. La Bible nous place devant un choix. Accepter Jésus avec ses deux vérités, où il est celui qui nous sauve, qu'il est notre Seigneur, ou le rejeter. Quel choix faisons-nous cet après-midi? Et contrairement à ce que nous pouvons penser, ne pas choisir, c'est faire un choix. C.S. Lewis, l'auteur des Narnia, nous le formule ainsi. Chaque fois que vous faites un choix, une partie de vous change. Si vous considérez les choix innombrables que vous avez faits tout au long de votre vie, vous verrez que lentement, vous avez transformé votre être antérieur en une créature en paix avec Dieu ou en guerre contre Dieu. Une deuxième Une deuxième petite application qu'on peut tirer, c'est ce texte nous invite à espérer en Jésus. On l'a chanté, Jésus est l'espoir des nations. Et Jésus va revenir, il est le soutien de ceux qui pleurent. Face à nos souffrances, regardons au rejet et l'humiliation de Jésus. Et rappelons-nous que c'est lui le vrai juge, qui voit tout et qui juge avec équité. Il jugera nos injustices subies. Le Christ rejeté et triomphant nous invite à marcher à sa suite en réalisant notre cœur mauvais, notre péché, notre besoin d'aide et en prenant part à son triomphe.